Voilà, comme ça. Mettez-la. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded,
sir. Che fai, gradisci?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Cinémascope du vendredi 8 mars 2024, journée internationale du droit des femmes, proclamée par l'ONU et par Sophie Lefebvre, qui nous a laissé nous débrouiller entre hommes. Ici à Cinémascope, je suis en compagnie de Didier.
Bonjour Didier. Bonjour tout le monde.
De Sylvain, naturellement, aux manettes.
Salut.
Et votre serviteur Olivier, donc, pour parler de cinéma, de films visibles sur les écrans sud-ardéchois en ce moment même. Donc, la journée, quand même, internationale du droit des femmes, eh bien, on précisera quand même que Sophie a donc usé de son droit légitime de retrait. Dans un monde mâle où la différence de rémunération entre les hommes et les femmes est encore de 14% et où les études menées par les femmes sont d'un niveau inférieur à celles menées par les hommes pour des raisons qu'en termes d'ancien prof de philo, je ne m'explique pas. Voilà, enfin si je m'explique un petit peu quand même pour des raisons sociales et politiques, justement, et culturelles, nous ne nous étendrons pas plus, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est de parler de trois films, La vie de ma mère de Julien Carpentier, Il reste encore demain de Paola Cortellesi.
Bravo, pardon. Bravo.
Si, ah bon.
Cortellesi,
il y a deux L, effectivement, et The Making of de Cédric Kahn. Mais pas dans cet ordre-là. Nous commençons toutefois par La vie de ma mère, bande-annonce.
Allez, vas-y, aide-moi à finir les bouquins.
Lisa, ta pseudopote.
Ils sont incroyables, ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées.
Je les arrose avec du blanc d'œuf le matin.
Ça va pas?
Si, si, mais là, j'ai une urgence.
Maman ?
Mon fils ! Oh ! Tu es contente de moi ? Je suis contente !
Comment t'es sortie, là ?
Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, chérie, danse avec ta maman. Je savais pas quoi faire.
Là, ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine, parfois.
Maman !
C'est bon, elle se doute de rien. Je la ramène à la clinique.
Maman !
T'as pas marre d'une sclante, là, sérieusement ?
Désolée.
Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu crois que c'est facile?
Je
pense que c'est cool d'avoir une mère comme toi en fait.
Fais-moi une place au fond de ta bulle.
Et si je t'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils.
On peut pas la forcer à soigner. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec votre soutien, elle peut aller beaucoup mieux.
Ça va? T'as jamais fait de conneries toi?
Ça va pas?
Là, j'ai plus la force pour ça.
Pour que tu m'oublies.
C'est pas exprès d'être comme ça.
On m'en rend pas compte, en fait.
Ça va aller. Je suis avec toi, je te lâche pas. Je voulais pas que ça se passe comme ça.
Pour être à toi.
La vie de ma mère de Julien Carpentier avec au scénario également Benjamin Garnier. J'aime bien parler des scénaristes. Un film, moi je n'ai vu ni l'un ni l'autre, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Agnès Jaoui qui a joué la maman du dernier juif.
Que je n'ai pas vu non plus.
Voilà, que nous n'avons pas vu. Et donc nous sommes parfaitement innocent pour parler de la vie de ma mère.
Que j'ai vu par contre.
Voilà.
avec un certain plaisir, il faut le dire. Donc c'est un. Alors c'est pas un film qui va révolutionner le 7e art, c'est très très classique dans sa mise en scène. Ce que j'appelle moi un film d'artisan, mais c'est pas du tout péjoratif, hein. Il y a de très bons artisans. Et c'en est un, voilà. C'est un très bon film français qui a comme personnage principal dans un premier temps Pierre. Donc Pierre est un trentenaire qui est fleuriste, donc qui tient une boutique, qui commence, on comprend assez vite, ça fonctionne bien. Il la tient avec son employé, mais néanmoins ami Hibou. Et le film démarre par une journée comme toutes les autres, où on choisit les fleurs au marché pour aller, voilà. Sauf que là, il y a un coup de fil et maman est revenue. Ouais. Maman est revenue d'où ? Ben, maman, elle est revenue de la clinique psychiatrique d'où elle s'est échappée et où elle était internée depuis 2 ans. Donc les retrouvailles sont un peu compliquées et on comprend très très vite que Pierre, donc le fils, s'était résolu à la faire interner parce que c'était vraiment plus possible, qu'il a passé sa jeunesse à la surveiller, à travailler comme un dingue pour payer les dettes qu'elle faisait, et que c'était vraiment plus possible et que cette fugue, il s'en serait bien passé, quoi. Et donc, mais il a très vite décidé de la ramener à la clinique, mais ce petit voyage en voiture qui normalement devrait être très court se transforme en une sorte de road movie de 48 heures où mère et fils, donc dans un habitacle, hein, vont se dire des choses qui se sont jamais dites, et parce qu'il y a beaucoup d'amour entre eux quand même et tout, mais effectivement il y a des moments c'est pas supportable, quoi. C'est pas gérable. Et donc on va assister à un certain nombre de petite scène de théâtre comme ça, donc un karaoké dont on a entendu une partie dans le film annonce, des rencontres, une tentative de fugue, voilà. Et tout ça va nous amener, alors je vais pas dire la fin, mais disons à un couscous final. Donc c'est un film où on aurait pu craindre un pathos un peu exagéré. C'est pas du tout le cas. C'est traité en même temps comme une comédie. Et alors, il faut bien le dire, avec deux acteurs vraiment au top niveau. Donc, William Legbill, qui est un jeune comédien qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces rôles-là, qui est plutôt dans les comédies un peu faciles et tout. Et qui est assez surprenant quand on découvre vraiment une autre facette de son talent. Et je pense que c'est quelqu'un dont on va entendre parler, dans les années à venir. Et puis, évidemment, Agnès Jaoui, donc qui joue le rôle de la mère. Et là, alors qu'il s'en donne vraiment à cœur joie, c'est un festival, ça fait vraiment plaisir de voir une actrice, on sent qu'elle s'éclate totalement, mais il ne faut pas oublier non plus les seconds rôles, et ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant dans le film, qu'on ne trouve pas toujours malheureusement, c'est-à-dire il n'y a pas que ces deux rôles principaux, alors il y a la fiancée du fils, il y a la grand-mère, il y a Hibou, donc le collègue, plus d'autres comme ça, et chacun existe véritablement, dire c'est pas juste des figurants qui passent comme ça, chacun a on voit bien les caractères qui sont dessinés, chacun a un rôle vraiment dans cette histoire qui est quand même à base effectivement une histoire mère-fils. Donc si on résumait, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une mère ingérable, d'un fils qui veut sortir de sa prison et commencer à vivre un petit peu pour lui à un peu plus de 30 ans, avec tout quand même ce que ça suppose de culpabilité, quoi. Parce que c'est évidemment, donc c'est un film qui ne le dit pas, mais en filigrane, on voit bien le rôle des aidants dont on parle beaucoup aujourd'hui, même si c'est jamais abordé frontalement dans le film. Donc voilà, un film agréable à regarder, sans pathos, qui aborde des sujets graves mais qui tire vers la comédie, avec un ton de comédie, donc, et ces deux acteurs principaux qui font vraiment le boulot.
Oui, de mon côté, c'est vrai qu'envie de voir jouer Agnès Jaoui, bon, on lui a rendu hommage au César, à la profession un petit peu, je crois, le dernier César. Effectivement, moi, on la suit depuis fort longtemps avec sa carrière théâtrale et on retrouve, comme tu le disais, il y a des petites scènes comme ça. Il y a peut-être son talent théâtral qui ressurgit dans son jeu.
Oui, et puis on sent qu'elle se fait plaisir et puis oui, on la comprend. Quoi. Ouais, elle est vraiment. Je vais pas dire en roue libre parce qu'en roue libre ça veut dire qu'elle est pas dirigée. Et là,
quoi, oui.
et là on voit qu'il y a quand même un réalisateur par derrière. Donc c'est un premier film de cinéma. Hein. Julien Carpentier, moi je le connaissais pas du tout. J'ai regardé un peu. Il a surtout fait quelques séries, des choses comme ça. Mais au cinéma c'est un premier film. Et pour un premier film c'est quand même plutôt réussi. Quoi.
Bon et ben ce film plutôt réussi et bien fabriqué, vous pouvez le découvrir. C'est pas tout de suite, mais vous pouvez le noter quelque part le 5 avril à Thueyts. Ça fait partie, le 5 avril à Thueyts, hein, ça fait partie de la tournée de la Maison de l'Image. C'est important de savoir que les écrans s'allument un petit peu partout dans le pays. Fabrication de films, bah, il en est question.
Je crois qu'il a Ruance aussi, La vie de ma mère, hein, également.
Moi, je l'ai pas
il me semblait
noté.
Bon,
c'est
je ne
possible.
À vérifier, mais
à
il semblait.
À vérifier
oui.
sur le net et ailleurs s'il passe ou non à Ruance. Moi, je l'ai là le 5 avril à Thueyts. En tout cas, en ce qui concerne la fabrication d'un film, eh ben, on est en plein dedans avec Making of, dont nous avons déjà parlé et que nous allons réévoquer un petit peu maintenant.
Et toi, tu me réponds ça comme ça, tu veux me quitter? Et quoi, ce plus quand il n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Quoi?
Oh putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Fais-moi bosser mon sexe en
supplie.
Water!
Attendez,
Water!
Pardon!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je change pas une ligne du scénario.
Ça représente combien votre apport?
1 million d'euros.
Tu dois rejoindre les producteurs au resto.
Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gaspro avec 2 têtes de cul.
Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier?
Bah carrément, à fond.
Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule.
T'es obligé de crier tout le temps?
Mais bien sûr.
Putain, mais t'as raison 1000 fois.
Le principal financier du film nous a lâchés.
Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé.
Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe?
Bah, tu dis rien, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes.
Ton film, comment ça va?
Bah, les techniciens sont énervés.
Vas-y, ferme
mais
ta gueule, toi, je te
pardon
pas.
Qu'est-ce que tu... Arrêtez, oh!
Les acteurs font n'importe quoi.
T'es des grandes vedettes! Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute!
Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive.
Eh, hey, mais il pleut, les gars! Il pleut!
Putain, mais vous faites tout chier!
Je porte mon projet comme un fardeau. Et je me sens seul.
T'as trouvé un repreneur?
Non, pas encore. Pourquoi? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar.
Du Qatar? Mais c'est quoi cette histoire encore?
C'est vrai cette fois-ci.
Attends, comment ça? C'était pas vrai l'autre?
Voilà, Making of de Cédric Kahn avec, vous l'avez peut-être reconnu, vous les avez peut-être reconnus dans la voix de Denis Podalydès et Jonathan Cohen. Nous en reparlons parce que ce film est visible ce soir, vendredi 8 mars, à l'USAS. Et de nouveau, la semaine prochaine, vendredi 15 mars, à Thueyts. Rapidement, moi, j'avais goûté ce film parce que, on l'a entendu dans le film annonce, à la fois, il y est question de comment on fait un film. Ça rejoint presque un genre. Hein, c'est peut-être La Nuit américaine, c'est... Chasseur blanc, cœur noir.
Ouais, le film dans le film.
Le film dans le film. Alors là, moi, je trouve traité d'une manière intéressante, avec quelques scènes attendues, d'autres peut-être plus fines. On s'ouvre sur la connaissance des métiers du cinéma un petit peu. Il y a aussi, bon, c'est le sujet du film, dans le film, sauver une entreprise, puisque c'est une entreprise qui est occupée par les ouvriers en vue de sa conservation sur un autre mode de gestion. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et on peut pas s'empêcher de faire le rapport entre faire un film et sauver une entreprise, puis l'entreprise, voilà. Les thèmes se rejoignent. Et puis, il y a mener sa vie, qui est une grosse entreprise aussi, pour Denis Podalydès en particulier dans le film. Donc Cédric Kahn mène un petit peu tout ça. C'est pas mal écrit. Ça me permet encore de faire mention d'une co-scénariste, Fanny Burdino, voilà, équité, homme-femme. Et toi, Didier, ce film, tu l'avais vu ?
Je l'ai vu à l'époque, donc ça fait pas des années, mais ça commence à dater un petit peu. Donc oui, je trouve que c'est un film intéressant sur le cinéma, au cinéma. C'est pas le meilleur que j'ai vu sur ce thème-là. Parmi les films récents, alors j'ai plus le titre en tête, mais le dernier film de Nanni Moretti, oui, m'avait beaucoup plus voilà m'avait beaucoup plus impressionné et aussi sur un ton de comédie. Là la comédie existe, mais je la trouve pas mise en avant. Alors après, c'est toujours intéressant de voir comment se fabrique un film. Ici, c'est vraiment un film qui se fabrique dans la douleur, on va dire, hein. même s'il y a un ton de comédie aussi,
le financement, parfois, la gestion des caractères, voilà, des acteurs, il y a tous
l'écriture aussi, les producteurs qui sont pas fiables, voilà. Et ce que je trouve très très intéressant, alors je vais pas être du tout politiquement correct en ce jour du 8 mars, mais ça me plaît bien aussi. Je reviens un peu sur en ce moment, c'est un peu la mode sur les appels au boycott de certains films pour les raisons qu'on connaît. Et je trouve que ce film a le grand mérite de rappeler que un film n'est pas l'œuvre d'une personne, mais que c'est vraiment une œuvre collective. Et que si effectivement il n'y a pas les scénaristes, il n'y a pas les producteurs, il n'y a pas les techniciens, il n'y a pas les acteurs, et j'en passe, et des meilleurs, ça n'existe pas. Ouais. Et que clouer un film au pilori parce que son réalisateur n'a pas été correct, c'est le moins qu'on puisse dire dans certains cas, c'est une punition collective. Et moi, les punitions collectives, franchement, à l'école, j'aimais pas ça, et j'aime toujours pas ça.
Non, exactement. Et d'ailleurs, la punition collective, elle est illégale, puisque en droit, on juge une personne physique ou et morale, mais pas une collectivité, évidemment. Je trouve d'ailleurs, c'est un des intérêts de ce film pour moi et Cédric Kahn en général, qui nous avait donné Le procès Goldman et puis aussi Fête de famille, c'est que je crois qu'il a une bonne capacité à mêler les sujets presque intimistes, hein, avec les sujets collectif, ouais, voire politique.
Sociétaux, bon, ouais, tout à fait.
Ouais. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant de réussir ça sans être lourd, et même avec, je trouve, un certain panache. Moi, en tous les cas, c'est un film dont j'étais ressorti assez content. En particulier, ce que tu dis, la manière dont il éclaire les différents métiers du cinéma et comment l'exclusion d'un seul de ces métiers rend impossible la fabrication d'un
tout
film.
Tout à fait.
Et ça me paraît intéressant. Fabriquer un film, c'est également ce qu'a fait Paola Cortellesi. Oh là là, en compagnie à l'écriture de Furio Andreotti, c'est un peu plus facile à prononcer. Il s'agit de « Il reste encore demain, je ne me risque pas » au titre italien. On écoute le film annonce.
On peut savoir ce que t'as dans le crâne.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Ferme-la. Je t'en foutrais. Occupe-toi de nous ramener de l'argent et donne un coup de main à ton incapable de mère.
Pourquoi lui, il gagne plus que moi ?
C'est un homme, voyons.
Vous allez tous crever de jalousie parce que ma fille va épouser un monsieur et pas un pouilleux comme vous. Bande de minables !
Et dire qu'il n'y aura plus de femmes dans cette maison quand tu partiras.
Marie, tu dois bien le choisir. Giulio est le bon.
J'en sais rien, dis-le moi, toi. Toi qui as si bien choisi.
T'auras plus à aller travailler.
Et qui t'a dit ça ?
Moi, je te le dis. Tu es à moi.
Mais pourquoi tu le laisses te traiter comme ça ?
Tu sais bien que moi, j'y connais rien.
Voilà. L'exploitation et l'appropriation de la femme, nous avons deux jolis thèmes traités dès le film annonce. C'est magnifique, et on a tort, regardez-nous, on n'a même pas réussi dans la maison Cinémascope à s'approprier Sophie Lefebvre. C'est quand même incroyable, ça. Enfin, les temps changent, Tu as été le constater en allant voir ce film.
Oui. Et alors c'est un film un peu phénomène, donc c'est un film italien, hein, on l'aura deviné avec le nom de la réalisatrice.
Je prie les auditeurs de m'excuser, mais je n'ai pas choisi de passer le film annonce en italien parce qu'on n'y comprenait pas grand-chose. Et évidemment, par contre, le film annonce plus court en français nous permettait de nous mettre dans le bain en bon francophone.
Donc, je crois qu'il faut préciser dès maintenant, parce qu'on risque de l'oublier, que c'est un film en avant-première. Il y a une seule séance cette semaine. Oui. Donc, c'est au cinéma Dutheil, au Regain Dutheil, et c'est ce soir à 20h30.
Oui. Merci,
et
Didier.
Je pense que c'est un film très très important, en particulier dans cette journée du 8 mars. Donc c'est le premier film de Paola Cortellesi, avec Avelassan, qu'on connaît pas nous en France. Enfin, moi en tout cas, j'avais jamais entendu parler de cette femme, mais qui est très très célèbre en Italie. Elle est présentatrice télé, actrice aussi bien au théâtre qu'à la télé, qu'au cinéma, un peu humoriste. Elle est très très populaire et elle a choisi de tourner son premier film, de le mettre en scène et d'interpréter elle-même le rôle principal, donc le rôle de Delia. Donc nous sommes à la fin des années 40, dans un quartier populaire de Rome, donc c'est juste la fin de la guerre. C'est encore très très présent, on voit des barrages de GIs américains qui contrôlent les papiers qui sont là. Cette femme qui est mère de famille, elle a trois enfants, donc Marcella qui est l'aînée, qui va bientôt se marier, et deux gamins qui sont absolument insupportables, qu'on a envie de les donner aux Américains et qui partent avec et dont elle arrive absolument à rien faire et tout, mais surtout elle a un mari qui est vraiment un gros con, hein, une ordure. Donc, pour situer un peu le personnage, tous les matins, quand il se réveille, dans le même lit, il commence par lui mettre une gifle. Donc, comme ça, au moins...
ça met le ton.
Voilà, si tu ne les mérites pas maintenant, tu la mériteras sûrement un petit peu plus tard. Alors, on commence la journée, quoi, voilà.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une brute complètement imbécile qui picole un peu de temps en temps, qui a des maîtresses partout et qui dépense le peu d'argent qu'il gagne au bistrot en jouant aux cartes avec ses copains. Donc, c'est vraiment pas...
Voilà. Le bonhomme.
Voilà, le bonhomme. Le bonhomme italien des années 40... mais bon, on a quand même l'impression qu'on voit bien que les femmes autour ne sont pas forcément toutes épanouies, mais que là quand même, elle a tiré le gros lot. Quoi. C'est quand même très, 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 très poussé. Un gros, gros bourrin, comme on dit. Alors, il a une excuse, hein, quand il lui a mis vraiment une trempe et il ne fait pas semblant. Il s'excuse, il dit, eh ben, tu sais, tu comprends, j'ai fait les deux guerres, je suis à cran. C'est voilà, et donc dans le quartier, d'ailleurs, c'est devenu un peu une blague. Il est toujours à cran, ton mari, qui a fait les deux guerres. Voilà. Et donc, cette pauvre femme, qui a 40, 45 ans, qui subit des coups quasiment tous les jours, mais aussi, et ça fait presque aussi mal, je crois, tout un tas de paroles insultantes, misogynes, absolument épouvantables. On entend dans le film annonce le père qui dit à la fille, quand tu seras partie, donc quand tu seras mariée, il y aura plus de femme à la maison. C'est-à-dire qu'elle est elle est complètement gommée, elle n'existe pas. Quoi. C'est assez dur même, c'est assez insoutenable. D'autant plus qu'elle est méprisée par sa fille aussi. C'est cette fille qui va se marier, qui lui dit, mais pourquoi tu te laisses faire? Regarde, t'es un paillasson, il s'essuie les pieds sur toi et tout. Et elle n'a pas de réponse à ça, parce qu'en fait, elle n'a jamais connu que ça. Quoi. Ça fait partie de l'ordre des choses. Donc, description d'un état de fait, en fait, banal à cette époque. Mais quand même, le début d'une prise de conscience. Alors évidemment, je ne vais pas raconter, mais à un moment, très très vite, il y a une lettre arrive. Une lettre arrive qui lui est destinée. Donc elle cache évidemment, parce qu'une femme mariée qui reçoit du courrier, ça ne se fait pas, hein, des choses comme ça. Et il faudra attendre vraiment, vraiment la fin du film pour savoir ce que c'est que cette lettre. Le spectateur, moi le premier... échafaud de tout un tas d'hypothèses, puisque bon, elle a quand même une amie qui, elle, est complètement libérée, qui lui dit, mais arrête un peu. Elle a un amoureux de jeunesse, donc c'est ses seuls rayons un peu de lumière dans la journée. Quand elle le croise, alors, il papote 3 minutes, quoi, c'est le petit rayon de soleil de ça. Alors, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Celui, on sait, il va partir de la région, bon. Et on ne saura qu'à la fin, et c'est vraiment un très très beau final.
Belle écriture aussi.
Très très belle écriture. Donc elle va croiser aussi un GI noir qui va essayer de l'aider, mais c'est pas facile de dire à un étranger qu'on se fait battre tous les jours. Alors le film au niveau cinéma est tourné en noir et blanc, ouais. Un très très beau noir, ouais. Et blanc. Bon, ça accentue évidemment la reconstitution de l'époque qui est parfaite. Je trouve absolument pas ostentatoire. On a les costumes, les rues, les maisons, mais c'est pas, il y a certaines reconstitutions qui sont un peu tonitruantes, si j'ose dire, et tout. Là, c'est pas du tout le cas. Et pour moi, c'est un film qui renoue avec la tradition du cinéma sociopolitique italien, donc qu'on a connu dans les années 60-70.
Ça m'a fait penser un peu à Une journée particulière, peut-être.
Oui, plus moi, Affreux, sale et méchant, presque.
Oui, c'est, d'accord.
C'est,
ouais,
même,
ouais.
Si les films sont différents, et, ouais. Et évidemment, parce que il y a ce côté un peu comédie, quand même, hein. On, ouais, voit les commères dans la cour.
Avec un côté presque burlesque.
Avec
par
un
moment.
Côté comédie italienne, ouais, voilà, cette, ouais, comédie italienne qu'on adorait dans les années 60-70. Bon, le film ne va pas sans quelques invraisemblances. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour l'histoire d'Elia. Et la bonne surprise, c'est que on connaît l'état du cinéma en Italie, qui est complètement au fond du trou et tout. Eh bien, ce film a réuni 5 millions, oui, de spectateurs. C'est incroyable. C'est jamais. Alors, le record des spectateurs italiens pour un film italien était détenu jusqu'ici par La vie est belle. Le nom m'échappe.
Moi aussi, mais je,
voilà,
vois.
Donc, il a été complètement dépassé. 5 millions de spectateurs en Italie, c'est plus de spectateurs que pour Barbie, c'est plus de spectateurs que pour Oppenheimer. Enfin, c'est vraiment historique. Et il faut dire aussi que le film est sorti à peu près au moment où une jeune fille de 22 ans a été tuée par son petit ami, et ça a généré vraiment là une vague d'indignation et de colère énorme. Et le film a été projeté à très grande fréquence dans les écoles, les collèges, les lycées. Donc c'est vraiment, et je pense que dans l'Italie, qui n'est pas un des pays européens les plus connus pour ses avancées en faveur des femmes, en particulier en ce moment, ça a été quand même, oui, un phénomène. Et j'espère que ce film sera vraiment, enfin, trouvera aussi un public en France, parce qu'au-delà d'être un excellent film de cinéma, c'est un excellent film tout court.
Oui, j'ai bien l'impression. Moi, j'y ai vu, mais juste dans le film annonce, j'y ai vu une, comme tu dis, donc évidemment comédie italienne, un peu de réalisme italien, un peu de burlesque américain, un peu mélangé comme ça. À mon avis, c'est effectivement, ça m'a tout l'air d'être un beau film qui vaut comme film et qui en plus porte un message dans une Italie. Oui, encore une fois, toutes les cultures sont bâties sur des paradoxes, mais là, l'Italie est quand même gouvernée par une femme, mais pas du tout dans le sens des femmes.
Alors, on peut le dire comme ça.
C'est, ouais, très curieux, quoi. C'est une curiosité. Mais nous ne sommes pas à l'abri de telles curiosités.
Absolument pas. Absolument pas.
Voilà. Un petit coucou comme ça. Voilà. Au passage, nous avons encore un petit peu de temps. Tu avais envie, parce que ça a visiblement beaucoup séduit, tu avais envie de dire deux mots de Dune de Gilles Villeneuve.
Oui, donc Mathieu a été dithyrambique la semaine dernière, il a eu raison.
Voilà.
C'est vrai que moi je suis vraiment un admirateur de Denis Villeneuve. Je trouve que n'importe quel sujet qu'il aborde, il en ressort quelque chose de très très original, et je pense par ailleurs, sur ce thème, la science-fiction, qu'il a révolutionné en quelques films, donc le Blade Runner 2049, Premier Contact et les deux Dunes, en 4 films, il a vraiment révolutionné le film de science-fiction actuel. Alors, au-delà de tout ce que Mathieu a pu dire la semaine dernière sur le côté spectaculaire qui est réel, c'est vrai qu'il y a des séquences de désert où on reste. Alors, en plus, là, j'ai eu la chance de le voir en salle 1, en navire, à au Benard en Dolby Atmos. Ouais,
c'est fabuleux.
C'est extraordinaire. Et il arrive à faire des choses. Alors, je repensais au Dune de David Lynch, qui était un ratage total. Alors, dans Dune, il y a une secte de femmes qui sont là depuis des centaines d'années, voire des millénaires, et qui manipulent dans l'ombre la génétique pour essayer d'arriver à une espèce de surhomme. Pour faire court. Et ces femmes ont développé un talent qu'elles appellent la voix. C'est-à-dire qu'avec la voix, elles arrivent à moduler leur voix de telle façon que quand elles ordonnent quelque chose, ça te colle au mur, quoi. Ça te colle au mur et tu le fais. C'est voilà. Et donc pour montrer ça, dans le film de Lynch, on avait un vocodeur. C'était absolument ridicule.
Ah oui, d'accord.
Et là, en Dolby Atmos. Eh bien, quand Paul Atreides utilise la voix, eh bien, moi, ça m'a scotché au fauteuil, quoi. Il y a vraiment, donc ça marche, donc on y croit, quoi. Il y a vraiment, voilà, c'est assez formidable. Et après, en termes d'adaptation, alors, l'œuvre littéraire de Frank Herbert est incroyablement foisonnante de personnages, de détails, de choses comme ça que, Même là, bon, il résume le premier tome, c'est-à-dire Dune, en deux films de 2h30, 2h40, ce qui est déjà énorme. Pour tout mettre dedans, il faudrait le double, voire le triple. Et je trouve que c'est très intelligent en termes d'adaptation, ce que Villeneuve a choisi de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de tout faire rentrer dans un espace un peu trop étroit, quitte à résumer 90 pages en une minute et demie, eh ben, il a fait le contraire. Il a choisi d'élaguer. C'est-à-dire, il y a des pans entiers de personnages, les grandes maisons, la guilde spatiale, etc. Ben, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps. Exactement. Et on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel qui est quand même, il faut bien le dire, une espèce de parabole sur le pouvoir religieux allié au pouvoir politique pour prendre la domination sur les masses, sur un peuple.
Malheureusement, nous avons des illustrations à l'est de cette alliance du sabre et du goupillon, on disait traditionnellement, pour décrire. Alors, pour m'intéresser aux adaptations, évidemment, à travers l'émission Un livre, un film, mais pas seulement, il y a une chose simplement que je voulais te dire pour finir, c'était inciter donc les cinéphiles à ne pas chercher à comparer, simplement ne pas chercher à comparer une œuvre littéraire avec une œuvre cinématographique. Ce sont deux médiums différents, ce sont deux œuvres différentes par deux artistes différents, et je pense qu'il est, bon, on en a un petit peu parlé, c'est trop long, hors antenne avec Didier, c'est plus intéressant de s'imaginer qu'il y aurait un troisième terme, qui serait la vraie histoire de Dune, quelque part perdue dans le ciel des idées, et dont Gilles Villeneuve d'un côté et Frank Herbert de l'autre seraient des interprètes, d'une certaine manière. Et comme ça, on se libère de la comparaison qui ne marche jamais, quoi. Enfin, voilà, je crois que c'est dans cet état d'esprit que j'irai voir Dune.
C'est vrai parce qu'on dit toujours « Ah, j'ai préféré le livre » ou « Ah, j'ai préféré le film ».
Alors que
mais
c'est pas la question.
Rarement, ça arrive, mais très rarement, les deux œuvres, j'ai apprécié les deux œuvres à valeur égale.
Non. Donc, arrêtez de les comparer pour justement les apprécier, chacune pour elle-même. On peut très bien aimer Un amour de Swann au cinéma et être un grand amateur de La recherche du temps perdu de Proust chez Gallimard. Voilà. Donc, il est temps de se quitter avant que Sylvain fasse des gros yeux.
Merci. C'est l'heure.
Oui, c'est l'heure. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, bonne journée du droit international des femmes.